deuxième temps de notre série avec des jeunes chercheuses et chercheurs à l'occasion de la semaine de France Culture, Demain les savoirs, pendant laquelle les nouveaux chemins de la connaissance font de même avec de jeunes philosophes, et tandis que Culture Monde convoque des jeunes spécialistes en géopolitique. Depuis une quinzaine d'années maintenant, nous avons assisté à la naissance et au développement d'une histoire attentive aux relations de l'homme avec l'environnement. Un nouveau regard a été porté sur les siècles passés, cherchant à comprendre comment les générations qui ont précédé la nôtre ont affronté les questions climatiques, les problèmes d'approvisionnement énergétique et l'épuisement de certaines ressources. Avec Anaïs Quin, qui a préparé cette émission avec nous, nous recevons aujourd'hui trois jeunes chercheuses et chercheurs qui ont récemment contribué par leurs travaux à renouveler l'histoire de l'énergie. Deux d'entre eux travaillent sur les énergies fossiles et la troisième sur l'énergie solaire. Nous serons en duplex avec Amsterdam, avec Marloes Beers, qui a écrit une thèse récemment sur le choc pétrolier, nouvelle impulsion au ralentissement de la politique énergétique européenne, avec Sophie Pélivagnan, qui est avec nous. Elle a écrit une thèse sur l'histoire de l'énergie solaire en France, sciences, technologies et patrimoine d'une filière d'avenir. Elle l'a soutenue en décembre 2014. Et enfin, Antoine Mismer, pour sa thèse sur l'analyse économique face à l'épuisement des ressources naturelles. Depuis des chercheurs dont nous ne connaissions pas le nom avant de l'avoir lu, William Stanley Jevons et Harold Oetteling, le cas des énergies fossiles. Bonjour Anaïs Quin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous. Marloes Beers, vous êtes en duplex depuis les studios de nos confrères d'Amsterdam. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là également. Sophie Bélivagnan, bonjour.
Bonjour.
Et Antoine Mismer, bonjour.
Bonjour.
Je vais commencer avec vous parce que chronologiquement, c'est vous le premier d'une certaine façon. D'abord, en vous posant à tous les trois peut-être une question toute simple. Cette histoire dont on a l'impression à vous lire que vous êtes un peu les pionniers chacun dans votre discipline, vous êtes historien de l'économie, vous travaillez sur l'économie politique et vous me disiez avant l'émission que vous étiez à peu près le seul à avoir travaillé sur cette question de l'énergie en économie politique, en l'occurrence Antoine Mismer.
Oui, on est peut-être quelques-uns, mais c'est vrai que quand on parle d'économie de l'énergie, souvent on fait remonter ça aux années 1970, au premier choc pétrolier. Et il se trouve qu'il y a eu des choses avant qu'on a peut-être un peu oubliées. Donc l'enjeu de mes recherches, c'est d'explorer ce passé théorique pour le faire ressurgir.
Sophie Pélivagnan, c'est un peu la même chose pour vous. En histoire tout court, vous travaillez sur l'histoire de l'énergie solaire. Et vous vous sentez non pas un peu seul, c'est bien d'être un peu seul quand on aborde ces questions de recherche, mais néanmoins, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent sur cette question-là aujourd'hui.
Oui, en fait, l'objet de ma thèse a vraiment été d'effectuer un premier grand défrichage qui pourrait permettre d'ouvrir une nouvelle voie disciplinaire de l'histoire de l'énergie solaire qui s'inscrit dans le champ plus large de l'histoire de l'énergie. Donc c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple, mais effectivement, on espère que ça va permettre d'ouvrir la voie.
Et Marloes Beers, pour vous, c'est un peu la même chose, en l'occurrence, dans cette histoire à la fois pétrolière et gazière, puisque vous travaillez à la fois sur le gaz de Groningue, mais également sur le choc pétrolier. Vous êtes nombreux ou nombreuses à travailler sur cette histoire-là?
En fait, on est nombreuses. Mes recherches sont inscrites dans les débats sur l'importance du choc pétrolier dans les politiques énergétiques européennes. Et c'est par là que j'ai essayé de donner une extra addition aux connaissances du choc pétrolier.
On y reviendra tout à l'heure avec vous, Marloes Beers. Alors commençons avec vous, Antoine Mismer, pour votre thèse donc sur la question de l'épuisement des ressources naturelles et de comment cet épuisement des ressources naturelles a été pensé bien avant que ce qu'on croit habituellement, c'est-à-dire les moments des années 70, le Club de Rome et toutes les questions qui tournent autour de la fin des ressources des énergies fossiles. Et vous partez de l'Angleterre, la deuxième moitié du 19e siècle pour votre thèse, et d'un certain William Stanley Jevons. Vous nous le présentez, ce William Stanley Jevons, est un des premier penseur, sinon peut-être le premier penseur, de cette question de l'épuisement des ressources naturelles en économie.
Alors oui, en réalité, Stanley Jevons, en histoire de la pensée économique, est un personnage connu, mais pas pour ce sujet-là. C'est un économiste qui a participé à ce qu'on appelle le mouvement marginaliste, qui a consisté à essayer d'expliquer avec de nouveaux mécanismes l'échange entre les personnes, entre les individus. Et en réalité, il est très connu pour cela, et dans les années 1870, il a écrit un ouvrage à ce sujet. Il se trouve que quelques années avant, au milieu des années 1860, il écrit un ouvrage qui s'appelle « La question charbonnière », qui est son premier gros ouvrage, celui qui va finalement lui permettre de se faire connaître. C'est une thématique qu'il va un peu abandonner par la suite. Mais ce qui est assez remarquable, c'est ce que j'essaie d'indiquer dans mes travaux, c'est qu'il a, dans cet ouvrage, il construit un discours économique sur les énergies fossiles, en particulier sur le charbon, qui est novateur dans la mesure où c'est un discours à la fois systématique, qui utilise quelques instruments théoriques pour expliquer comment la demande de charbon répond à l'offre de charbon, etc. Et en même temps, c'est un discours qui s'émancipe du discours des ingénieurs ou des géologues à l'époque, qui sont déjà un petit peu préoccupés par la baisse des réserves en Angleterre. Et donc, il construit ce genre d'outils.
Anaïs Kien.
Mais ce qu'on voit bien dans chacun de vos travaux de recherche, à la fois vous, Sophie Pellivagnan, Antoine Mismer et Emma Lousbir, c'est que finalement la question de l'inquiétude, de l'épuisement des nouvelles sources d'énergie, des sources d'énergie qu'on exploite, arrive quasiment instantanément avec la découverte. Antoine Mismer.
Oui, d'une certaine façon. Alors il y a quand même des cycles dans les préoccupations. Il y a certaines innovations techniques, la machine à vapeur au début du 19e, fin 18e, début 19e, qui permet d'aller beaucoup plus profond dans les mines, etc. Donc on a des moments où on a un espoir d'optimisme. Voilà, un optimisme. Et puis d'autres périodes où on se dit, on ne pourra pas le faire indéfiniment. Il y a un moment où ça va bloquer. Ce qui est à noter, qui est peut-être un contraste entre hier et aujourd'hui, c'est que à l'époque, en tout cas, le sujet n'est absolument pas écologique. Le sujet, c'est que l'Angleterre dispose d'un charbon, d'un anthracite en particulier, d'une très bonne qualité, qui fait sa force industrielle. Et si ces réserves viennent à manquer, l'enjeu, ce n'est pas qu'il n'y aura plus du tout de charbon, c'est qu'il faudra l'importer. Et que l'avantage compétitif disparaîtra à ce moment-là. Donc on a un discours sur la crainte du déclin économique, en quelque sorte.
Sophie Pellivagnan, pour répondre à la question d'Anaïs Kien.
En réalité, pour ce qui concerne l'énergie solaire, finalement, la découverte est relative par rapport au moment de pénurie, parce qu'en fait, en apparence, effectivement, on a beaucoup de technologies solaires qui ressortent, par exemple, après les années 70, le choc pétrolier, etc. Mais on verra, et sans doute on en discutera, que les découvertes elles-mêmes sont effectuées en amont. Donc sans doute que l'État joue à ce moment-là pour l'attribution de crédit. Et effectivement, voilà. Et à ce moment-là, on va parler d'énergie solaire.
Mais... Et puis peut-être qu'on peut dire aussi que l'énergie solaire n'a jamais pris autant de place que l'énergie charbonnière ou l'énergie gazière, comme pour Marlous Beers.
Alors, Harold Oetteling, jusqu'à maintenant, d'après ce que j'ai lu dans votre thèse, Antoine Mismer était considéré comme le premier, dans les années 30, à avoir envisagé cette question, justement, de la pénurie et donc de la nécessité de penser autrement une source d'énergie fossile pour pouvoir économiquement ne pas tomber en crise d'une certaine façon. Il était considéré comme tel, et vous, tout votre travail d'histoire économique, en l'occurrence Antoine Mismer, c'est de dire ça ne vient pas tout seul, il y a des pionniers, pourrait-on dire, et même si Jean-Baptiste C avait posé des questions en tant qu'économiste de la première moitié du 19e siècle sur l'épuisement des ressources fossiles, il n'avait pas pensé, lui, il avait mis en parallèle cette question du charbon, par exemple, avec la question du bois, qui est une ressource renouvelable, ou d'autres sources d'énergie de ce type. Celui dont vous parlez, c'est-à-dire William Stanley Jevons, lui, il conçoit bien cela, la différence entre énergie renouvelable et énergie fossile, et donc épuisement des ressources, en l'occurrence.
Alors oui, ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que quand on regarde le corpus actuel de l'économie de l'énergie, beaucoup de ramifications viennent du modèle de Oetteling, dans les années 1930, qui est un modèle mathématique avec une règle qui est utilisée pour exploiter les ressources du mieux possible. Quoi qu'il en soit, c'est souvent présenté comme un point de départ et j'ai souhaité un peu prendre à rebours cette idée-là et voir d'où venait ce modèle. Et en remontant dans le passé, c'est en effet à Stanley Jevons que j'ai trouvé le point le plus loin où on a une définition des énergies fossiles qui, théoriquement, est la même que chez Hotelling.
Donc vous avez remonté le fil d'une généalogie intellectuelle, finalement.
Alors en fait, ce serait d'une certaine façon oui, mais c'est pas tout. C'est-à-dire que je suis remonté pour trouver jusqu'où je pouvais remonter avec la même définition qu'Hotelling, pour ne pas faire d'anachronisme sur l'objet. Et puis ensuite, quand je suis redescendu, j'ai fait abstraction de Hotelling. Parce que l'enjeu, ce n'était pas d'avoir une lecture téléologique qui allait aboutir au modèle de Hotelling, mais de voir toutes les ramifications potentielles qui pouvaient exister.
Ça, c'était un vrai travail intellectuel, en l'occurrence. Alors, vous pointez, par exemple, chez Jevons, donc dans les années 1860, avec cette question charbonnière, donc le livre qu'il fait paraître à ce moment-là, vous pointez la nécessité, ou il réfléchit en tous les cas à la possibilité ou non qu'il y ait une taxe sur le charbon. Et vous vous amusez à faire le parallélisme avec ce qu'on connaît aujourd'hui sur la taxe carbone, en disant, tout compte fait, est-ce qu'il n'a pas pensé avant d'autres la question de la pénurie, la question de la nécessité d'éviter des importations massives, la nécessité de que l'économie continue à tourner au mieux, d'une certaine façon, pour éviter des à-coups liés à l'approvisionnement en charbon. Et vous vous dites, là, il y a quand même une pensée qui est assez structurée de ce Jevons au milieu des années 1860 autour de cette question-là, Antoine Mismer.
Alors oui, c'est alors là encore, il y a le risque d'anachronisme toujours qu'il faut maîtriser. Mais disons que ce que l'on voit chez Jevons, c'est toute une réflexion, en effet, comme vous dites, sur les instruments fiscaux pour éviter l'épuisement des ressources. Et on a le même genre d'argument pour que pour des fiscalités carbone aujourd'hui, éviter la pollution ou alors éviter la surexploitation des ressources, etc. Et en même temps, on a les mêmes arguments contre. Et c'est ça qui m'avait surpris le plus, c'est-à-dire que Jevons parle du risque que ça peut, qu'il peut y avoir sur le pouvoir d'achat, même s'il n'utilise pas le terme. Il parle des énormités administratives, bureaucratiques qu'impliquerait ce genre de taxes. Et ce que j'ai fait dans mon travail, c'est mettre en résonance ces arguments-là avec des rapports de la Banque mondiale, des documents de travail, de cabinet, de conseil aujourd'hui, et on voit qu'on a la même rhétorique.
En particulier sur cette idée que si on surtaxe le charbon, comme on surtaxe le carbone aujourd'hui, on surtaxe tout. Parce qu'au bout du compte, le charbon est à la base de toutes les transformations de l'industrie britannique dans les années 1860. On désavantage l'industrie britannique par rapport aux autres industries voisines. Et au bout du compte, eh bien, chaque personne qui achète quoi que ce soit dans la société britannique se trouvera taxée plusieurs fois. Et donc, on va renchérir le coût de la vie. Et donc, peut-être créer des crises économiques, en l'occurrence, Antoine Mismer.
Oui, en effet, voilà. C'est, en tant que bien fondamental, l'énergie se trouve dans la quasi-totalité des produits que nous consommons. Et donc, un renchérissement de l'énergie, c'est un renchérissement de tous les produits, comme vous l'indiquez. Alors, ce qui est quand même, dans ce parallèle que j'essaie de tracer avec les fiscalités carbone aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, il était inconcevable d'avoir une énergie qui soit tirée d'autre chose que du charbon, d'une certaine façon. Quand on proto-évoquait d'une certaine façon l'électricité, eh bien, c'était de toute façon de l'électricité produite à partir d'autres énergies primaires. Donc, le sujet n'était pas là. Aujourd'hui, bien sûr, quand on parle de fiscalité carbone, on met en évidence l'existence d'énergies non carbonées. Et donc, on aurait d'éventuelles possibilités d'évitement de ce genre de taxation.
Anaïs Quien.
Oui, Antoine Mismer, vous travaillez donc sur comment cette économie politique s'intéresse à la question de l'énergie, mais aussi comment l'histoire de la discipline économique elle-même aussi va structurer le regard qu'on a sur cette question énergétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment les aléas internes à cette discipline vont influer sur ce regard sur la question de l'énergie ?
Alors c'est là le travail de l'historien de la pensée économique qui est un petit peu à cheval entre l'histoire et l'économie. C'est qu'il y avait, dans ma thèse, j'ai essayé de tenir deux fils tout au long de mon travail, qui était le fil histoire des faits, d'une certaine façon. Il y a un certain nombre d'événements qui ont changé le regard des économistes. certains progrès techniques, certains les débuts de l'exploitation du pétrole, la Première Guerre mondiale qui a créé beaucoup de capacités de production qu'on ne pensait pas pouvoir mettre en œuvre. Tous ces événements un peu extérieurs à la discipline économique ont façonné le regard des économistes. Mais il y a aussi beaucoup d'évolutions propres à la discipline économique. J'évoquais tout à l'heure l'émergence de ce mouvement marginaliste. Il y a aussi une nouvelle théorie du capital, il y a l'apparition des outils mathématiques, tout ce genre de choses qui n'ont rien à voir avec l'énergie, qui en fait ont façonné aussi le regard des économistes sur l'énergie. Et ce que je montre dans ma thèse, c'est que en réalité, alors que Stanley Jevons avait une vision très macroscopique des enjeux énergétiques, du risque pour le développement économique, etc., à force de traduction et de retraduction par les économistes dans leur langage, dans leurs outils, on est arrivé à avoir une vision des énergies fossiles très différente, beaucoup plus microscopique, où on cherche à aider l'exploitant individuel à optimiser ses revenus sur une période donnée, mais on sent bien que les enjeux de développement économique disparaissent.
D'ailleurs, vous précisez bien dans votre travail, Antoine Missemer, que ce débat autour de l'énergie, en particulier charbonnée, donc du charbon, c'est un débat qui n'a pas d'écho ailleurs que la Grande-Bretagne, les États-Unis. Vous dites que les penseurs, ceux qui réfléchissent à cette question de la fin des énergies fossiles, en l'occurrence, on n'a pas encore développé suffisamment le pétrole pour y réfléchir, dans ces années entre 1850-60 et 1930, quelque chose comme ça, sont donc des penseurs américains ou des penseurs britanniques, c'est-à-dire des lieux de production massive, en tout cas pour la Grande-Bretagne, qui est la première productrice à la fin du 19e siècle de charbon.
Alors oui. Alors il y a d'une part, je me suis essentiellement intéressé à la pensée européenne et américaine, donc peut-être y a-t-il des traces en Extrême-Orient par exemple de pensée économique sur ces sujets. Néanmoins, c'est vrai que sur le corpus sur lequel je me suis intéressé, il se trouve qu'on a peu de choses, on a quelques éléments en Allemagne, mais on a peu de choses sinon dans les autres pays, en France, en Italie, etc. Lié en effet à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'était pas un sujet écologique, pour utiliser un terme anachronique, c'était un sujet économique et de compétitivité. Et donc les gens qui menaient ces discours étaient les gens directement concernés par cette suprématie économique tirée de l'exploitation des énergies fossiles.
Ça nous dit quand même pas mal de choses aussi sur l'alliance, pourrait-on dire, des chercheurs en économie avec le contexte économique de leur pays, le contexte de puissance aussi de leur propre pays, puisque si ils sont plus nombreux à travailler autour de ces questions dans des pays qui eux-mêmes veulent la suprématie dans ce domaine, eh bien c'est bien parce qu'il y a une liaison entre ce qu'on appellerait aujourd'hui la recherche et l'industrie.
Alors oui, d'autant plus sur cette période avant Oettinger, où on a des chercheurs, des universitaires ou autres qui investissent ce terrain aussi en raison de questions politiques. Certains interviennent directement dans les débats publics, c'est le cas de Jevons notamment.
En raison de questions politiques et peut-être aussi en raison de la provenance des sources de financement de leurs recherches, c'est-à-dire que politiquement, ces recherches sont possibles parce qu'elles sont financées, parce qu'il y a une attente d'État ou une attente des grandes entreprises d'ailleurs, Antoine Missemer.
Alors à cette époque, peut-être pas tout à fait. Je consacre un chapitre dans ma thèse à ce qu'on appelait le mouvement de la conservation aux États-Unis au tout début du XXe siècle, où là, on a un certain nombre de penseurs, qui ne sont pas tous économistes d'ailleurs, qui réfléchissent sur la gestion des ressources, les droits de propriété, etc. Et beaucoup sont pris dans des agences fédérales ou ont directement un rôle ou politique ou en lien avec des lobbies industriels. Donc là, oui. Après, pour ce qui est de Oettinger, de Jevons ou d'autres, c'est des gens qui sont beaucoup plus dans le système universitaire, qui ont donc bien sûr un employeur et des financeurs, mais qui ne sont pas dans cette même logique.
Je pensais moi que l'expression qu'on voit partout, on n'hérite pas de la terre, de ses parents, mais on l'emprunte à ses enfants, était une expression relativement contemporaine ou d'une philosophie oriental, et j'apprends en vous lisant que d'une certaine façon, Jevons y a pensé avant tout le monde, enfin en tout cas y a pensé dans ses travaux d'économie.
Oui, c'est très juste, et c'est lié au fait qu'il ait justement construit ce discours économique sur des énergies fossiles différentes des champs agricoles et d'autres types de ressources. Du fait que les ressources épuisables ne soient par définition amenées à disparaître, eh bien, si on prélève aujourd'hui un stock de minerais, c'est un stock de minerais qui disparaît pour les générations futures. Et donc, il mène toute cette réflexion sur la nécessité, d'une certaine façon, de compenser les générations futures en investissant dans des biens qu'ils pourront ensuite utiliser.
Le pétrole. J'aime ça, le pétrole. Je ferai n'importe quoi pour du pétrole. Pour du pétrole.
Moi, j'aimerais le pétrole. Oh, 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 oh. Tu aimeras le pétrole. Il aimera le pétrole. Nous aimerons le pétrole. Vous aimerez le pétrole. Tu aimeras ton prochain
pour toi-même. France Culture, pétrole, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Et sur un air de Michel Magne à l'occasion du film « Moi, il y en a vouloir des sous » de Jean-Yann en pleine crise pétrolière. Eh bien, c'était une façon de vous donner la parole, Marlous Beyers. Donc, vous êtes vous avez fait votre thèse sur le choc pétrolier, donc, et en particulier sur les réactions européennes de l'Europe en tant que commission, communauté européenne à l'époque, face à ce choc pétrolier, le premier des années 70. Et c'est un travail d'histoire précis sur la façon dont une entité politique, pourrait-on dire, à savoir la communauté européenne des premiers temps, a réagir face à une crise économique qui est une crise énergétique à la fois, Marlous Beyers.
Voilà, c'est ça, exactement. La thèse se concentre sur les politiques énergétiques européennes dans les années 70 et la recherche en coopération dans ces domaines. Les recherches concernent plusieurs domaines. Donc, il y a la politique d'électricité nucléaire, mais aussi, par exemple, la coopération internationale entre les pays consommateurs de pétrole. Mm-hmm. Donc, il y a, par exemple, en novembre 1974, il y a l'Agence internationale de l'énergie a créé à Paris, où, d'ailleurs, la France ne fait pas partie. Donc, la thèse intègre, en fait, plusieurs politiques énergétiques et non pas seulement la politique de pétrole. L'énergie se sert d'un cas excellent, en fait, pour la thèse qui se concentre sur le processus de décision européenne et l'énergie, se fait très bien analyser dans... Par ces dimensions et, qui sont à la fois économiques et géostratégiques.
Oui, alors donc cette crise de pétrole se déclenche donc en 1973. Évidemment, oui. À l'époque, l'Europe est beaucoup moins vaste en tant qu'entité politique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Oui. Mais néanmoins, même s'il y a peu de pays... chacun de ces pays va réagir différemment par rapport à cette crise pétrolière.
Oui,
et,
voilà.
Et ce que vous expliquez très bien dans votre travail de thèse, Marlous Berz, c'est justement eh bien, qu'il n'y a pas véritablement de politique commune qui se met en place de réaction face à cette crise pétrolière. Il y a des tentatives de politique commune, mais qu'elles échouent. Le consensus échoue, dites-vous, en mai 1973, parce que tout compte fait, chaque gouvernement considère qu'il s'agit de sa propre souveraineté, la souveraineté donc énergétique, et qu'il y a à mener une politique séparée des autres pays de l'Europe, Marlous Berz.
Voilà, c'est ça. Il y a une grande différence entre les politiques énergétiques en Europe. Ce n'est pas seulement la souveraineté, mais il y a aussi une différence dans la possession des sources énergétiques.
Bien sûr.
Par exemple, aux Pays-Bas, il y a les gisements très larges en gaz. Donc, il y a une dépendance pétrolière qui est beaucoup moins élevée qu'en France, par exemple. En France, il y a déjà les politiques nucléaires qui sont en train de se développer. En Allemagne, il y a le charbon qui est toujours très important dans la consommation énergétique. Donc les politiques sont très différentes, les intérêts sont presque en opposition.
Mm-hmm. Annalisa.
Ce qui m'a paru très intéressant, c'est de voir à quel point finalement l'espoir européen repose dans ces cas-là sur, d'une certaine façon, sur l'espoir d'une crise, c'est-à-dire que l'urgence liée au traitement d'une crise, l'urgence de traiter collectivement le traitement d'une crise, l'opportunité peut amener à espérer un développement plus rapide, peut-être plus efficace et plus collectif, notamment des politiques communes de l'Union européenne. Donc on voit cette question de la crise et de l'urgence à la traiter comme une contrainte salutaire. Et malheureusement, les espoirs sont visiblement toujours très très déçus, Marlous Berz.
Absolument, absolument. Dans le contexte de l'intégration européenne, la crise est souvent considérée en termes positifs.
Oui.
Comme l'intégration européenne ne peut pas être formée par les crises. Et le choc pétrolier a montré que la dualité dans le processus de décision européenne, avec d'un côté le forum ou les institutions supranationales et de l'autre côté une coopération politique, ne pouvait pas se développer à un nouveau. Vous ne pouvez pas générer une coopération fructueuse. Mm-hmm. On voit le caractère de l'économie qui a deux dimensions. Il y a la dimension économique et la dimension géopolitique qui sont, les deux dimensions sont liées à les deux centres de décision européennes. Donc, intergouvernemental et supranational, parce que la coopération supranationale se concentre surtout, en fait, surtout dans cette époque-là, sur la coopération économique et la coopération politique, qui venait de se développer depuis 1970, se concentrait surtout sur la politique, sur le côté géopolitique de l'énergie. Et ces deux dimensions de l'énergie se retrouvent donc dans des conflits au niveau européen, dans ces deux forums de centres de décision.
Le Conseil et la Commission, c'est cela ?
Pas
non, simplement
Non, parce que en fait, voilà, c'est plus compliqué que ça. il y avait depuis 1970 une coopération de politique européenne qui ne faisait pas vraiment partie de la coopération de la coopération communauté européenne, mais où les pays membres de la coopération européenne étaient membres. Donc les mêmes neuf États membres. D'accord. De la coopération européenne étaient là, mais ce ne faisait pas part de la communauté européenne. Et le Conseil, comme on sait, fait partie de la communauté européenne et
Et donc, ça donne voilà. Deux centres de décision qui n'ont pas les mêmes décisions. Anaïs Kien.
On a évoqué vos travaux et votre thèse, Marlous Berz, sur ces questions supranationales, sur ces questions de prise de décision à l'échelle de l'Union européenne. Mais vous êtes aussi l'auteur d'un article très intéressant qui est une sorte de monographie territoriale. Là, on se trouve à une échelle d'histoire locale, de micro-histoire. C'est l'histoire d'un petit territoire dans lequel on a trouvé un énorme gisement de gaz voilà. après-guerre. Et cet article est particulièrement éclairant sur ce que les politiques énergétiques, la gestion de la régulation de la consommation énergétique et puis aussi la fierté industrielle et la fierté minière d'une région définit l'identité d'une population, d'un paysage, d'une micro-société. Et comment les aléas finalement des acculturations successives depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui sur les questions d'environnement et sur les questions minières construisent des identités très contrastées. Alors là, il s'agit d'ailleurs d'un gisement de gaz dont on a fêté le 50e anniversaire il y a à peine quelques années. Et il s'agit de différentes petites communes qui se trouvent dans une des provinces des Pays-Bas du bassin de Lac. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, en fait, il concerne du gaz de Groningen, on dit en français, et c'est un bassin énorme. C'est énorme. C'est tellement énorme que les Pays-Bas étaient le deuxième exportateur du gaz en 1974 après les États-Unis. Mmh. Il concerne vraiment d'une importance large.
Sur un tout petit territoire.
Ah oui, c'est tout petit. Pour nous, c'est toute une province quand même. Mais comme les Pays-Bas sont tout petits, c'est tout petit. Mais maintenant, par contre, il y a un petit peu de problème dans ces pays, car il y a des séismes et
Et les habitants s'en plaignent, c'est-à-dire qu'après une grande période de fierté où on Absolument. Célébrait l'arrivée du gaz, toute la conversion des machines et de l'ensemble des Pays-Bas au gaz, aujourd'hui on se retrouve avec toute une série de plaintes des habitants qui donc pour la plupart ont vécu de ce gisement de gaz et de son exploitation, des habitants qui se plaignent des nombreux séismes qui abîment notamment les habitations.
Oui, absolument, c'est ça. Et maintenant, l'entreprise qui gère le gaz dans cette province doit diminuer sa production de gaz. Et c'est une politique qui a monté jusqu'aux élections. L'élection dernière aux Pays-Bas, c'était très important. Et c'est vrai que le gaz fait partie de l'identité néerlandaise, mais en même temps, l'environnement est un autre grand thème de l'identité néerlandaise. Et on voit que là...
Il y a une concurrence à cet endroit-là.
Voilà, il y a une concurrence. Voilà.
Ça veut donc dire, d'une certaine façon, que faire de l'histoire de l'énergie, comme vous le faites, Marlous Berz, c'est à la fois s'intéresser aux politiques locales, aux politiques nationales, aux politiques internationales ou communautaires, comme vous l'avez fait pour votre thèse sur la crise pétrolière et les réactions de l'Europe face à cette crise pétrolière. Penser aussi en termes d'histoire culturelle, comment, d'une certaine façon, on récupère identitairement un certain type de gisement d'énergie et on en fait sa propre identité. On sait ce qu'il en a été pour le bassin Lorrain en France ou pour le bassin du Nord-Pas-de-Calais, en l'occurrence pour le charbon. En tout cas, il y a là de quoi traiter de façon presque globale, pourrait-on dire, économiquement, politiquement, internationalement ou encore culturellement, cette question de l'énergie en s'attachant à cette question que vous avez traitée dans votre thèse. Marlous Berz.
Oui, mais par son importance économique, l'énergie joue un très grand rôle dans les pays et par là aussi, il gagne une importance culturelle et d'identité. Mm-hmm. C'est absolument une fierté nationale qu'on voit dans plusieurs pays. Par exemple, le charbon en Allemagne, qui est à la base de la première communauté européenne dans les années 50, mais aussi le gaz de lac dans les Pyrénées françaises, mais aussi l'électricité nucléaire.
En France, par exemple.
En France, par exemple, oui.
Alors, il y a une autre énergie dont on pourrait être fier. Sophie Pellivagnan, rebonjour.
C'est l'énergie plus universelle, peut-être.
Oui, mais on pourrait en être fier parce que vous expliquez dans votre thèse sur que vous avez soutenue en décembre 2014 à Grenoble sur l'histoire de l'énergie solaire en France que, tout compte fait, on n'a pas à pâtir, on a été relativement pionnier de cette question-là et qu'on l'a peut-être un peu oublié ou abandonné parce que justement, peut-être la fierté s'est-elle portée sur une autre source d'énergie, le nucléaire, et qu'au bout du compte, alors que les premiers essais d'énergie solaire avaient été faits par un certain Félix Trombe que j'ai découvert dans vos travaux, en l'occurrence, dans la fin des années 40, eh bien, progressivement, on a oublier ce type de travaux pour pouvoir privilégier d'autres sources d'énergie, Sophie Pellivagnan.
Oui, alors déjà je tiens juste à préciser que c'est pas à l'université de Grenoble que j'ai soutenu ma thèse, mais bien l'université de Chambéry, donc au laboratoire Langage, Lettres, Société d'études transfrontalières internationales. Voilà. Mais effectivement, donc Félix Trombe a mené les premières recherches officielles donc au CNRS dans les années 1900 à partir de 1946 à peu près. Donc on est vraiment juste après la Deuxième Guerre mondiale et effectivement on est face à un pionnier à ce moment-là. Pourtant l'énergie solaire c'est une énergie universelle comme Nesquin le rappelait et effectivement la France s'est lancée dans la voie solaire dès les années 40 et pourtant aujourd'hui
on est dans un contexte de pénurie terrible à cette époque-là aussi peut-être il faut alors, mettre en contexte cette question du développement de la recherche d'énergie autre que
en réalité
les énergies traditionnelles de l'entre-deux-guerres.
Oui. En réalité comme pour tout à l'heure on en parlait pour le charbon, on pense pas du tout aux aspects pénurie et écologique pour ce qui est de l'énergie solaire dans un premier temps. Mais c'est réellement un besoin en fait qui est tout à fait détaché des considérations énergétiques, c'est-à-dire que Félix Trombe a besoin de haute température parce qu'il est chimiste des terres rares et que il a besoin de concentration donc température sur un matériau donné très importante. Et il se renseigne sur tous les moyens d'obtenir ces hautes températures et il se rend compte qu'il y a de nombreux essais qui avaient été menés des siècles précédents sur la concentration solaire. Donc on est vraiment dans un besoin de la chimie à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'il est amené à construire les premiers fours solaires, donc dans son laboratoire de Meudon dans un premier temps. Et puis comme les essais sont concluants, on va décider de développer cela.
À Mont-Louis ?
Alors à Mont-Louis, à partir de 1949, effectivement, on construit un four solaire de plus grande envergure. Et puis les essais étant toujours concluants, Félix Trombe se lance d'ailleurs dans d'autres essais, donc relatifs à la thermique solaire, aussi pour l'habitat, puisque c'est l'inventeur du mur Trombe, qui est un mur qui permet de chauffer une habitation en utilisant simplement les radiations solaires en fait qui sont capturées dans une façade qui va capturer des masses d'air en fait c'est un jeu de masses d'air et donc c'était par le biais de la recherche de pointe au départ qu'on s'intéresse à ça. Et il va également construire plus tard un grand four solaire à Odeillo dans les Pyrénées-Orientales. L'énergie solaire est donc entrée au CNRS par ce biais-là au départ. Effectivement, après, ça devient une solution énergétique plus tard.
Mais ce qui est impressionnant d'ailleurs, c'est de voir la diversité des sources après lesquelles vous avez couru. D'ailleurs, vous dites bien que ça a été une des difficultés de ce travail, c'était d'inventer tous les corpus de sources que vous avez étudiés, puisque là, vous nous avez parlé de cette proto-histoire finalement de l'énergie solaire, avec cette histoire scientifique du côté du laboratoire qui s'intéresse à l'énergie solaire. Et puis ensuite, il y a aussi toute la question de l'intérêt étatique pour l'énergie solaire, notamment avec les crises pétrolières des années 70. Et puis, il y a une partie passionnante de vos travaux qui est aussi la question de la façon dont l'énergie solaire est devenue une énergie très noble et est entrée dans les cultures populaires dans la deuxième moitié des années 80 pour finalement changer aussi d'espace symbolique, parce que la question de la place symbolique de l'énergie solaire, cette question très universelle, un peu ésotérique qui existe dans les années 40, va quand même changer d'identité dans les années 80 pour devenir tout autre chose et en même temps être extrêmement valorisée parmi une population, alors que l'État a plutôt déserté la question de l'énergie solaire à ce moment-là.
C'est vrai que c'est un des paradoxes en fait que j'ai essayé de relever. Donc déjà effectivement pour la question des sources, l'histoire politique j'ai pu la trouver dans les grands centres d'archives, donc tels que les Archives nationales, les archives du CNRS, les archives d'EDF. Enfin voilà, c'est des.
Ça c'était pas très compliqué finalement.
Ça c'était pas très compliqué. En revanche, tout ce qui concernait déjà la petite recherche solaire, puisqu'il faut savoir que l'énergie solaire c'est pas une grande histoire de l'énergie solaire, mais plein de petites histoires de l'énergie solaire qui se sont développées en parallèle les unes des autres. Donc c'est souvent des histoires de pionniers qui ont été des passionnés dans leur laboratoire et qui ont mené par exemple en Algérie Marcel Perrault dans les années 1950 développe un institut de l'énergie solaire de l'université d'Alger. Donc cette histoire-là, je n'ai pu la trouver que grâce aux héritiers de Marcel Perrault qui ont conservé les archives du chercheur et qui donc m'ont donné accès à ces archives. Et donc effectivement c'était une grande investigation sur tout le territoire national pour retrouver ces archives oubliés dans les greniers.
Et aussi faire des entretiens, parce que le grand avantage de travailler sur un sujet relativement récent, contrairement à ceux qui vous ont précédé, c'est que les acteurs sont encore vivants d'une certaine façon et que vous pouvez les interroger sur leur motivation, sur ce qui les a poussés à s'intéresser à cette énergie. Vous avez donc fait toute une grande campagne d'histoire orale pour pouvoir permettre d'avancer dans votre thèse, Philippe Elivagnan.
Oui, tout à fait. C'est vrai que au départ, je suis partie de l'histoire la plus connue, donc Félix Trombe, et effectivement, le laboratoire...
Plus connue pour ceux qui s'intéressent à l'énergie solaire.
disons que la plus documentée, on va dire, en tout cas. Donc à Odeio, le grand four solaire d'Odeio est toujours en fonction aujourd'hui. Et il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé avec Félix Trombe et qui ont en tout cas pris sa suite au laboratoire, qui sont tout à fait accessibles. Et c'est grâce à eux que j'ai pu avoir des détails qu'on ne trouve pas forcément dans les archives nationales. Effectivement, il s'est agi beaucoup de retrouver d'autres acteurs ou des héritiers de ces acteurs ou des personnes qui ont travaillé avec eux. Et c'est là que c'était extrêmement passionnant de parcourir.
Vous avez aussi été chercher du côté de la littérature, de la culture populaire. Vous parlez de science-fiction, vous parlez de littérature pour la jeunesse, d'imprimé, de finalement de la façon dont cette question de l'énergie solaire a intégré les imaginaires pour s'installer durablement dans les imaginaires et dans la culture, mais très peu dans sur le marché énergétique français.
Oui, c'est vrai que, alors, c'était un peu la question de ma thèse, c'est-à-dire filière d'avenir, donc dans le sujet de ma thèse. Savoir si cette idée de filière d'avenir qui intervient même à la fin du 19e siècle, puisqu'on a des romans d'anticipation de cette époque-là, où on parle d'énergie solaire, parce que il y a des travaux donc d'Augustin Mouchot qui sont assez connus à ce moment-là, parce qu'il est assez diffusé, voilà. Mais il y a, voilà, des romans... qui font entrer l'énergie solaire dans la vie quotidienne à ce moment-là. Et après, ça perdure dans la littérature de science-fiction. Dans les années 1950, 1960, on a des romans qui parlent d'énergie solaire, qui la font entrer dans la vie quotidienne du futur. Et je me suis posé la question de savoir si cette idée d'énergie du futur, est-ce que ça avait pu poser problème justement dans l'acceptabilité au niveau étatique pour savoir si cette énergie était réellement une énergie qui pouvait être utilisée dans le présent.
C'est-à-dire qu'elle avait l'air trop utopique pour être prise au sérieux.
C'était, c'est une question qui se pose et qui, à mon avis, et en tout cas, voilà, ça a souvent été évoqué dans les années 70 aussi, de se dire que malgré le fait qu'elle ait une image extrêmement positive et depuis très longtemps dans la culture collective, l'énergie solaire, est-ce que ça peut être une réelle solution énergétique?
Voilà. Oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est là où on voit que chercher, ça n'est pas pour rien qu'on cherche au bout du compte, c'est que vos conclusions sont parfois contre-intuitives. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que les années Pompidou-Giscard étaient des années productivistes où on a grillé toute l'énergie que l'on pouvait griller et donc on n'a pas pensé justement à cette question d'énergie renouvelable. Et puis, on pense que l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, parce qu'aujourd'hui la gauche est alliée aux écologistes, eh bien c'est justement l'arrivée d'une pensée alternative sur les énergies renouvelables. Et vous nous expliquez que c'est le contraire, en fait, que c'est Giscard qui lance un programme avec Dornano qui s'appelle 5000 maisons solaires, que ce programme va être interrompu par l'arrivée de la gauche au pouvoir, et que la gauche va peut-être privilégier plutôt les énergies qui sont plutôt plus sales que l'énergie solaire, et qu'il faudra retrouver plus tard par d'autres moyens, en particulier des moyens économiques, la baisse des coûts, etc., et l'arrivée des panneaux solaires venant d'ailleurs que de France. Avec cette arrivée, on va retrouver un goût pour le solaire qui n'aura pas été porté par l'État directement, d'une certaine façon, Sophie Pellivagnan.
C'est vrai que cette question-là est une question intéressante parce que, en fait, il y a la question de l'apparence et la question de réellement ce qui se fait. Donc, il faut savoir que les années 70, effectivement, on considère qu'à partir de 1978, entre 1978 et 1982, on peut trouver un âge d'or du solaire français parce que on a créé un commissariat à l'énergie solaire en 78. On retrouve dans toute la presse de vulgarisation scientifique, Sciences et Vie, etc., énormément de références solaires. Pif Gadget aussi fait beaucoup référence à l'énergie solaire. Voilà, on voit que la population connaît l'énergie solaire et on installe des maisons solaires, etc. Mais en réalité, il faut remonter un peu en amont à la crise pétrolière, aux questions d'énergie nucléaire, donc en 74, le plan Messmer. Et en fait, à ce moment-là, on est plein dans le programme nucléaire civil. Et donc, on est en train de construire des centrales. Donc, malgré le fait que la France accorde beaucoup de crédit à l'énergie solaire par rapport à avant, donc avec la construction aussi de la centrale Thémis dans les Pyrénées-Orientales, qui sert à expérimenter la production d'électricité par l'énergie solaire, on se rend compte que... On a une façade qui est celle du crédit qu'on apporte au solaire au niveau institutionnel. Et puis, on a la réalité, donc il faut se questionner.
C'est pas à cet endroit-là qu'elle met son argent.
on a comme cette impression, effectivement. Et d'ailleurs, la crise solaire de 1986, qui est donc une crise vraiment avérée, à partir de ce moment-là, on n'a presque plus d'entreprises qui fabriquent des panneaux solaires et les entreprises qui fabriquent des panneaux photovoltaïques sont en train de péricliter un peu à ce moment-là. Du fait qu'il y a un problème entre... Parce que 86, c'est le contre-choc pétrolier.
C'est-à-dire la baisse du prix du pétrole qui tombe à $30 et donc qui, d'une certaine façon, ne nécessite plus qu'on fasse des efforts sur des énergies alternatives.
Voilà. Et puis, c'est aussi l'aboutissement du programme nucléaire français. En 86, on a pratiquement tous les réacteurs qui sont en fonction. Et la question réellement de l'apparence et des faits réels du crédit qui est apporté et pose question.
Alors, c'est un sujet dont vous êtes pionnière, Sophie Pellivagnan, et on est content de vous recevoir à la Fabrique de l'Histoire pour en parler. Mais vous avez soutenu votre thèse il y a maintenant un peu plus d'un an. Est-ce que ça veut dire que quand on est pionnier, on défriche, vous l'avez bien expliqué avec Anaïs Quin tout à l'heure, des sources nouvelles, on va chercher les sources, mais aussi on espère peut-être pouvoir continuer sur sa lancée. Est-ce que vous arrivez à continuer en tant que jeune chercheuse sur votre lancée dans ce domaine, en l'occurrence Sophie Pellivagnan ?
Alors, en tant que chercheuse, c'est vrai que j'essaie de communiquer encore sur mon travail. Donc, je suis chercheure associée au laboratoire où j'ai fait ma thèse. Mais malgré cela, c'est vrai qu'il est difficile, je pense, de trouver une voie toute tracée lorsqu'on défriche un terrain.
On cherche un post-doc, c'est comme ça qu'on dit. Hein.
Je peux chercher un post-doc, effectivement, ça pourrait être une idée. Mais ça pourrait être aussi imaginer quelque chose de plus pérenne, qui serait simplement de continuer ce grand défrichage en valorisant toutes ces archives qui sont dans les greniers. Encore aujourd'hui.
D'ailleurs, il y a une dimension de votre travail qu'on n'a pas abordée, c'est la dimension patrimoniale, c'est-à-dire que vous avez aussi travaillé sur les paysages et sur comment l'énergie solaire et son exploitation sont inscrits dans le paysage et dans le mobilier urbain et rural.
Oui, en fait, mon parcours au départ n'est pas celui d'une historienne, mais celui de quelqu'un qui a travaillé sur le patrimoine industriel, scientifique et technique. Donc cette entrée-là semblait aussi primordiale par rapport au sujet que j'abordais, puisque la question du patrimoine, c'était une vraie question en termes d'énergie solaire. Quand on parle des petites associations et des petites initiatives individuelles, en fait, ce qu'on en a, c'est des traces aujourd'hui. C'est pas des archives vraiment inventoriées, etc. Donc il était important, effectivement, d'aborder cette question du patrimoine. Et pour l'énergie solaire, ça se posait particulièrement, puisqu'on a des beaux bâtiments dans les Pyrénées-Orientales qui sont valorisées à l'échelle touristique.
Antoine Missmer, même question qu'à Sophie Pellivagnan. On a soutenu sa thèse en théorie et en histoire économique, comme vous l'avez fait il y a un an et demi à peu près maintenant. On trouve du travail derrière ?
Alors, moi j'ai eu la chance d'être recruté par le CNRS.
Ça va.
Donc ça va, j'en suis très très content. Il se trouve que l'histoire de la pensée économique est un champ, un sous-champ de l'économie, Donc, je suis économiste de formation, je suis recruté au sein des économistes. Donc, on a cette piste-là quand on travaille sur la théorie économique, qui est peut-être une piste supplémentaire.
Et pour vous, Marlos Berz, qu'est-ce qu'il en est travaillant à la fois sur le gaz de Groningue et sur les politiques liées à la crise pétrolière en Europe, vous avez trouvé un refuge, un endroit où vous pouvez continuer votre travail?
Oui, ben moi je suis très contente car j'ai trouvé un poste à l'université de Utrecht comme assistant professor. C'est un peu l'équivalent à maître de conférence. Donc là, je enseigne beaucoup et en même temps, je débute des recherches sur les politiques énergétiques dans les années 90.
Je
poursuis les recherches.
C'est parfait.
Une chercheuse heureuse.
une chercheuse heureuse, il faut les noter quand elles le sont. Mais peut-être aussi parce que vous n'êtes pas en France. C'est peut-être aussi une des questions qui a été posée récemment pour la recherche en France. Merci en tous les cas à vous, Marlos Berz, et merci aux techniciens de la radio qui vous ont accueillis à Amsterdam. Merci à vous, Sophie Pellivagnan.
Merci beaucoup.
Et en espérant que vous puissiez continuer vos recherches qui semblent absolument passionnantes, et je pense qu'il y a encore beaucoup de pistes derrière votre thèse sur l'histoire de l'énergie solaire en France. On la lira un jour, cette thèse, elle va être publiée.
Alors, c'est en cours de discussion auprès de plusieurs éditeurs, donc on espère.
Et Antoine Mismer, c'est la même chose
Le manuscrit, normalement, est parti chez l'éditeur, donc j'espère bientôt voir ça.
Merci donc à tous les trois. On continue demain cette série consacrée donc à demain les savoirs avec un tout autre sujet, les renouvellements de l'histoire militaire au XVIIe, XVIIIe siècle. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet-Dauphard-Guéry était avec nous à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation. Vous pouvez bien entendu l'écouter sur le net, la télécharger pendant l'année qui suit sa diffusion, cette émission ainsi que toutes les autres. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique de l'Histoire, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.